Radio Campus, pardon, 88.1.
Il est 13h30 et c'est à présent l'instant invité et interview dans ce Café Campus. On accueille à présent Max Gonzalez et Jérémy Vergne. Bonjour à tous les deux, comment allez-vous?
Ben, très très bien, très heureux d'être là. Juste un peu dommage l'engine carabinée là, mais très heureux d'être là.
En tout cas, on va essayer de faire avec pour cette interview. Alors, si nous vous recevons ici aujourd'hui, c'est pour parler de vos activités. Vous êtes entrepreneur et on va aussi parler d'écologie, car vous vous inscrivez dans une démarche de comportement éco-responsable. On va revenir sur tout ça. Et vous, Max Gonzalez, vous êtes à l'initiative de la marque Sapio. Il s'agit d'une marque de spiritueux bio. Et vous, Jérémy Vergne, vous êtes à l'initiative du café Pia. Eh bien, première question, est-ce qu'à tour de rôle, vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos activités et nous raconter la genèse des débuts et vos motivations pour ces projets?
Alors, merci de me recevoir et de nous recevoir aussi, évidemment, avec Max, donc qu'on se connaît un peu. Donc, évidemment, on est un peu dans les mêmes sphères, puisque je pense qu'on a énormément de points communs, et notamment sur la façon d'entreprendre aujourd'hui. Donc, pour vous donner un petit peu en détail, en fait, aujourd'hui, j'ai créé une société avec des associés qui s'appelle le Hangar 5 Café. Donc, le Hangar 5 Café, c'est un lieu où on va exploiter plusieurs marques, et notamment la marque Pia, donc, pour lequel vous m'invitez aujourd'hui. On exploite une nouvelle marque qu'on vient de lancer, justement, qui pourra être peut-être intéressant plus tard pour d'en parler, puisque c'est la marque Batch Culture, où on essaye d'apporter un nouveau café, enfin une autre façon en tout cas d'aborder ce produit-là, qui est un produit que tout le monde connaît évidemment et consomme au quotidien, et en même temps, qui aujourd'hui a quand même, si on commence à réfléchir à l'historique du café, ça a quand même plus de casseroles que d'autres choses, puisqu'on est quand même dans l'exploitation sur la frange industrielle évidemment de peuples et de pays du sud qui vont produire pour les pays du nord. On a le transport, il y a énormément de casseroles qui tournent un petit peu autour de ce produit là et donc nous on essaye tout simplement d'en faire une promotion d'un café différent à travers donc la marque Pia et donc la marque Batch Culture, qui est une nouvelle marque que l'on vient de lancer.
Et pour Sapio?
Merci de me recevoir également. D'une initiative pendant le Covid où j'avais à cœur de changer, en fait, parce que j'ai un bar sur Bordeaux qui s'appelle l'Empire, le Nouvel Empire maintenant. Et en fait, on travaille uniquement des alcools et des spiritueux, donc industriels, de grandes marques, que je ne vais pas citer évidemment. Et j'avais à cœur de changer, donc je me suis associé avec un Cédric Nadet, que j'ai envie de citer aussi, qui m'a permis de lancer cette entreprise. Et qui est donc spécialisé, lui, dans les spiritueux. Et je lui ai dit, écoute, Cédric, moi, j'ai envie de changer totalement les produits que l'on a à l'Empire et vraiment de m'engager donc dans l'éco-responsabilité et de sortir du schéma industriel, quoi. Donc, il me dit, Cédric, mais oui, mais le truc, c'est qu'avec le schéma industriel que tu as, tu as des remises, tu as des avantages, tu as de l'argent à la fin de l'année, etc., etc. Et je lui dis, écoute, peu importe, je suis prêt à faire ce qu'il faut et il faut juste qu'on arrive à trouver le bon compromis pour qu'on puisse, à terme, démocratiser le bio dans le milieu des spiritueux et du coup dans la nuit et dans le monde du bar et de la restauration, dans le CHR, quoi. Et donc, on a fait un an et demi de recherche et développement et on a réussi à aboutir à sortir donc cette marque donc Sapio Spirit, donc du gin, de la vodka, du rhum brun, du rhum vieilli, du coup à cognac et tout ça, et à des prix ultra attractifs qui permettent donc du coup de proposer donc au CHR la possibilité de s'engager donc dans l'éco-responsabilité avec des produits français et locaux, voilà.
Alors, on entend souvent que changer ses comportements et changer de mode de production, c'est quelque chose de contraignant et de très compliqué. Est-ce que vous êtes en accord avec ça ou au final, c'est plutôt plus d'organisation et de motivation qu'autre chose?
Alors, pour ma part, oui. Alors, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Ça peut pas être un changement qui soit radical, en fait. Parce que déjà de base on a une clientèle, les consommateurs ont des habitudes de consommation. Si du jour au lendemain tu dis c'est comme ça et pas autrement, tu peux aussi perdre ta clientèle. Et l'idée c'est pas de baisser son chiffre d'affaires, au contraire c'est de l'accroître. Parce que notre rôle d'entrepreneur évidemment c'est d'avoir une entreprise viable et rémunératrice. Donc l'idée c'est d'y aller step by step, vraiment par étapes, afin de mettre en place ce qu'il faut, quoi. Donc du coup ouais, c'est ça part d'une vraie motivation. je pense que dans le secteur du CHR à l'heure actuelle, bon, mais on est clairement à la traîne, surtout dans le monde de la nuit, les bars, les boîtes de nuit, etc. Et clairement, quand on est dans nos habitudes de fonctionnement, que l'argent rentre tout seul, que ça fonctionne, que, clairement, les gens, ils ont pas envie de changer un fonctionnement qui fonctionne, quoi, avec une équipe qui gagne, comme on dit. Donc oui, non, ça part d'une vraie volonté personnelle, dans laquelle il faut s'accorder avec ses associés aussi, qui sont pas forcément en phase, afin de maintenir des marges, afin de maintenir des ratios, afin de maintenir voilà, toute l'économie de l'entreprise. Et voilà, donc ça, c'est quand même très compliqué de changer du tout au tout, mais c'est faisable, la preuve.
Et pour le café, alors ?
Alors, bah, pour le café, c'est une donnée supplémentaire, puisque comme je vous l'ai dit en préambule, c'est un produit qui vient de loin. Donc, du coup, quand on parle d'écologie dans le café, bah, du coup, voilà, ça, y a quand même une responsabilité un petit peu plus supplémentaire. Donc, je rejoins évidemment complètement Max, puisque aujourd'hui, voilà, vous nous avez invités aussi en entrepreneur. Donc, nous, on se doit évidemment d'essayer au maximum d'avoir des entreprises viables qui permettent tout simplement de vivre, d'embaucher du monde, de faire vivre des gens et en même temps tout en essayant de véhiculer un message d'une autre façon de consommer. Bon, bah là, il vient de parler du CHR qu'on connaît bien, évidemment, puisque nous aussi, on distribue des cafés donc dans des hôtels, cafés, restaurants CHR. On fait aussi de la distribution automatique, donc dans des bureaux. On va faire aussi des petits offices, donc des petits bureaux, des PME. On va retrouver aussi du café aussi directement aussi auprès des consommateurs à travers le coffee shop qu'on a rue des Airs. Le truc avec le café, c'est que en fait, j'aurais tendance à dire aujourd'hui qu'on est dans une nouvelle génération d'entrepreneurs, parce qu'on n'est pas les seuls, on est loin d'être les seuls, qui essayent de faire la promotion d'un café traçable. Déjà, c'était la première chose, c'était à peu près il y a 10-15 ans quand ça a commencé en France. Alors, ça reste très embryonnaire à l'époque, maintenant ça commence à évoluer. Donc, l'idée au début, c'était de parler de traçabilité, c'était tout simplement d'être capable tout simplement de faire la promotion, comme dans le vin, d'un château. Max pourrait parler évidemment pareil, comme il disait avec Cédric, sur l'aspect spiritueux. Donc, bref, en tout cas, d'essayer aussi d'être capable de mettre un visage sur le produit que l'on consomme dans le café. Je peux vous assurer que le visage, la plupart du gens, personne ne le connaît. Et on parle d'origine, quand on parle d'un Colombie, on a l'impression qu'on parle de traçabilité, mais c'est comme si on parlait d'un vin de France. Et personne n'oserait parler d'un vin de France, puisqu'on sait bien qu'on a différentes régions. Bah, c'est exactement pareil, sauf que c'est un peu plus complexe, parce qu'il y en a 70 pays, il y a 70 pays de production. Parmi ces 70 pays, bah, vous imaginez bien qu'il y a plein de régions différentes, on a des variétés, on a des cépages. Donc en fait, si vous voulez, notre approche au départ a été vraiment de faire la promotion d'un visage, mais il est vrai qu'on s'adresse forcément à une clientèle qui quand même a... je les félicite de ça, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment cette démarche-là, mais après, il faut être honnête, et c'est là où je rejoins aussi Max là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, à travers la marque Batch Culture que l'on lance, on essaye aussi d'avoir des prix maîtrisés, parce que c'est vrai que c'est ça aujourd'hui, l'écologie, évidemment, on a tous envie de le faire, et puis bah, on a quand même tous le portefeuille, il n'a pas beaucoup bougé, on est tous d'accord, et donc comment on arrive à faire un geste qui permet d'être écologique, d'avoir une approche éco-responsable, et en même temps on ne peut pas tout se permettre, donc moi je rêverais qu'on arrive à tous consommer bien. Mais on le sait bien, on est incapable aujourd'hui, à moins d'être évidemment d'avoir un niveau de vie qui nous permet de le faire, mais on est obligé de faire des choix, quoi. Donc du coup, bah, j'ose espérer, c'est un peu ce qu'on essaie de faire au quotidien au Hangar 5 à travers la marque Batch et Pia, bah, de faire la promotion en disant bah, le café c'est pas anodin, donc par contre nous on essaye aujourd'hui de créer des cafés qui, enfin en tout cas de faire la promotion de cafés où on va avoir en fait des cafés qui sont achetés hors du marché boursier. Vous savez que le marché boursier c'est un peu le nerf de la guerre dans le café, c'est-à-dire que c'est assujetti au marché boursier, donc l'Arabica à New York, avec des prix qui fluctuent au quotidien. Je rappelle que pendant plus de 5-6 ans en arrière, le marché était très très bas, donc c'est-à-dire que le coût de revient des producteurs était trop bas. Donc aujourd'hui, heureusement quelque part, parce que je vais vraiment dire pour le coup que c'est une bonne chose pour nous, le Covid a fait quand même que les prix ont beaucoup remonté, donc on commence à avoir des prix qui commencent à être à peu près cohérents d'une manière générale, mais en même temps, on est quand même vraiment dans cette idée de, en tout cas, d'essayer d'apporter un café vertueux tout en maîtrisant son prix. Parce que, voilà, si on veut faire le choix de changer, bah, il faut aussi quand même que ça puisse rester dans des cases qui nous permettent quand même de pouvoir l'acheter. Donc aujourd'hui, nous, les cafés que l'on va vendre sont des cafés qui vont être entre 6-7 euros les 250 grammes. Sur quelques cafés, je vais parler par exemple d'Éthiopie ou de cafés comme ça au terroir un peu fabuleux d'où vient, on peut monter à 7,50. Mais vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose qui est... Alors évidemment, si vous faites la comparaison avec l'industrie qui va coûter... un paquet de café va coûter maintenant, comme les prix ont augmenté, on est plus entre 4 et 5 euros. Bon, bah, pour 1,50 euro, 1 euro de plus, on peut avoir une démarche qui soit vertueuse pour la filière. Voilà.
Et en parlant de démarche vertueuse, on entend souvent que c'est le consommateur qui détiendrait le pouvoir de changer les choses en changeant ses habitudes de consommation, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez qu'il y a une demande de la part des consommateurs, une demande réelle qui s'accroît, ben, pour consommer de manière éco-responsable, bio, enfin toutes ces étiquettes?
Alors, je vais me permettre de répondre. Donc, je suis complètement d'accord avec vous sur ce postulat. C'est le consommateur qui, évidemment, est le maître à bord et qui va choisir de faire ses choix. Bon, maintenant, ne nous enlevons pas. Enfin, j'ai peut-être un côté un peu sceptique. C'est quand même les industriels, les gros industriels qui ont quand même la plus grosse part de responsabilité dans le carnage qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et ça, vraiment, enfin voilà, je pense que malheureusement, enfin voilà, peut-être un peu pessimiste, mais j'ose espérer que par nos petits gestes quotidiens, on peut sauver quelque chose. Mais malheureusement, voilà, quand on voit bien les études, on voit bien que c'est plutôt les Total, c'est plutôt toutes ces grandes entreprises qui aujourd'hui ont tendance quand même à être le plus responsables dans l'état dans lequel on est aujourd'hui. Par contre, je rejoins, bien évidemment, aujourd'hui, il y a une vraie demande, c'est tout à fait vrai. Nous, on a une chance folle. Pia est née en 2016, vraiment un début où on était encore un peu embryonnaire en essayant de faire la promotion d'un café un peu différent. Et en même temps, aujourd'hui, on le voit bien, on a une entreprise qui est viable, on a des salariés. On est la preuve quand même qu'il y a un chemin du consommateur vers un peu plus de vertu dans son quotidien et dans ses achats et dans sa consommation. Maintenant, par contre, et je pense que Max me rejoindra là-dessus, moi, je n'ai aucune honte aujourd'hui à faire la promotion, à essayer de développer. Moi, je veux une belle entreprise, parce qu'une belle entreprise avec des salariés et un certain volume de café fait qu'on a un impact sur la filière. Pour l'instant, je suis quand même un petit torréfacteur et je n'ai pas énormément d'impact sur la filière. C'est des petites touches. Bah, je vous avoue que moi, j'ai une grande ambition. Bah, ce serait qu'on soit capable quand même de pouvoir petit à petit, alors pas moi, parce que tout seul, on n'y arrivera jamais. On restera toujours des petits, hein, ça c'est sûr et certain. Je vous rappelle que dans le café, les trois gros industriels sont Nestlé. Nestlé, c'est 40 conteneurs par jour. 40 conteneurs, un conteneur, c'est 18 tonnes. C'est à peu près 2%. 2% de Nestlé, c'est le volume mondial de café. Donc, c'est-à-dire qu'il est géant, il fait 2% à lui tout seul du volume mondial. Donc, évidemment qu'on ne sera jamais dans ces sphères-là, et puis on n'a absolument pas l'ambition, mais par contre, je pense qu'on est plusieurs, et je pense à Bordeaux, mais je pense aussi à d'autres villes en France et évidemment dans le monde, donc dans notre secteur, qui essayons de faire la promotion d'un café différent, mais en n'ayant pas peur de faire du volume. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est important. Le volume permet de changer le paradigme de la production.
Et Max,
oui, je te rejoins à 100% là-dessus. Ouais. Mais c'est ça qui est compliqué à faire, justement. C'est qu'il faut des moyens, il faut beaucoup de moyens. Et moi, pour info, la transition, j'ai pu la faire uniquement parce que j'avais une entreprise avec une certaine rentabilité. Et évidemment que s'il n'y avait pas cette rentabilité, je serais peut-être encore bloqué dans des schémas encore archaïques, quoi. Donc il faut quand même toujours un peu de pouvoir d'achat et des moyens pour pouvoir avancer et faire cette révolution. Voilà.
Alors, pour parler un peu du milieu de la nuit avec l'Empire, donc depuis 2021, vous développez le Nouvel Empire, un lieu pour faire la fête en respectant la planète. C'est quoi faire la fête en respectant la planète? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept?
On a tendance à se dire qu'un endroit comme Darwin, par exemple, ça va être un des seuls endroits où on va pouvoir justement être éco-responsable et faire la fête. Bon, il n'y a pas de raison que ça soit que ces lieux-là qui soient ouverts à cette éco-responsabilité. Je veux dire, ça devrait se démocratiser dans tous les établissements. Maintenant, tout le monde devrait prendre ce parti pris-là, en fait. On est en 2022, avec la canicule qu'on a vécue, la crise du Covid, etc. Il est question de changer vraiment, mais dans chacun dans sa sphère, dans sa structure, en fait, c'est impératif. Donc non, l'idée de l'éco-responsabilité et de faire la fête éco-responsable, c'est par exemple sur le sourcing des produits. Donc j'en reviens avec Jérémy et le café Pia, c'est ça, c'est avoir un café éco-responsable, tracé, sourcé, bio, qui soit cultivé par exemple en agroforesterie, en respectant les sols, en respectant la régénération des forêts primaires, en respectant la biodiversité. C'est ça qu'il faut avoir maintenant en termes de produits dans nos établissements. Nous, par exemple, on va travailler, avec notre burrata, par exemple, au restaurant. Elle va être faite à Bordeaux. Elle va être fabriquée avec du lait bio français à moins de 60 km de là où c'est fabriqué. Donc en fait, c'est avoir aussi un impact donc sur, bah sur, sur les terres qui sont cultivées potentiellement, qu'elles soient donc locales et qu'elles soient sans intrants chimiques en fait. Donc du coup, la base, c'est le produit. Donc on va au produit et le produit qu'on va transformer, nous, qu'on va travailler après, il faut qu'il soit sain et respectueux de la planète. Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Donc que ça soit... que ça soit de la nourriture ou que ça soit des spiritueux, en fait, tout simplement. Donc les gens, s'ils veulent un gin to chez moi, et bien clairement, ça va être un gin fabriqué à Cognac à une heure d'ici, ça va être un gin bio, donc avec des blés bio potentiellement, puisque c'est le gin, nous on fait une distillation de blé. Donc voilà, donc en fait c'est tout ce cheminement qu'il faut avoir avec des produits qui soient vertueux, qui soient régénérateurs d'une certaine façon de notre vie sur Terre, quoi, en fait. Et c'est là que je vois justement que l'entrepreneuriat en 2022, c'est... pour moi, on est à l'aube un peu d'une renaissance, en fait, avec des portes qui s'ouvrent dans tous les sens à l'idée de quoi ? De réparer la planète, de régénérer. Et les entrepreneurs d'aujourd'hui et du coup de demain sont ceux-là, en fait. Et c'est que des portes ouvertes, en fait. La voie, elle est toute tracée. On sait ce qu'il faut faire. Donc, il faut y aller maintenant. Et c'est tout le monde, en fait. Que ce soit les associations, que ce soit les entreprises, que ce soit même les politiques. Maintenant, il faut des politiques incitatives aussi qui permettent aussi d'accélérer la transition et les co-responsabilités, quoi. Voilà.
Aujourd'hui, dans notre société, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que c'est possible d'avoir une entreprise rentable en ayant un mode de production local, respectueux de l'environnement, bio, etc.
Absolument. Et en dire le contraire est une hérésie totale. En fait, c'est tout à fait possible. Bon, maintenant, soyons très clairs, je pense que c'est dans le même cadre pour les personnes, en tout cas, qui pensent de cette manière-là. Il faut que ce soit aussi quand même dans le cahier des charges de l'entreprise, c'est-à-dire vraiment dans les fondements même de l'entreprise. Mais oui, bien évidemment, tout à fait. C'est aujourd'hui, Max est là, moi je suis là, mais je ne suis pas le seul, encore une fois, on n'est pas les seuls à faire cette promotion-là. Et oui, alors on n'est qu'au début, comme il l'a dit, on est à l'ère du nouvel aube. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et en même temps, on voit bien que, enfin voilà, je touche du bois évidemment, mais voilà, les feux sont verts. Enfin, je veux dire, les gens demandent ça. Je veux dire, que ce soit les restaurants, que ce soit les bureaux, que ce soit les consommateurs. Aujourd'hui, en tout cas moi dans ma partie, oui, ils sont à la recherche de quelque chose qui permette tout simplement de faire la promotion d'un produit qui soit produit de manière vertueuse et éco-responsable jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la régénération des déchets aussi. Donc le marc de café étant le marc quand même, est une matière organique d'une puissance folle et qui est souvent, la plupart du temps, jetée à la poubelle. Donc nous, aujourd'hui, on travaille là-dessus. Donc oui, bien sûr, c'est clair et net que tout est possible, c'est viable. Et par contre, il faut continuer. Et encore une fois, je pense qu'on est petit aussi je trouve qu'il est quand même important que des grandes entreprises, les médias, tout à fait les politiques, etc. En fait, c'est souvent... là d'où je viens, je vois bien quand même ces tissus associatifs. Tout ça existe depuis quand même pas mal d'années, en fait, si vous voulez. Donc il y a un moment donné, si on veut que ça bouge quand même à une grande échelle, bon, malheureusement, nous, on va tout faire. Parce que je pense qu'on est en tête de pont de cette promotion-là. Mais par contre, ce ne sera pas nous qui ferons basculer tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Il y a besoin... vous savez, regardez, dans le café, je vais vous prendre un exemple concret. Je venais de parler de Nestlé juste avant. Aujourd'hui, l'approche du café, si je prends 80% des consommateurs, ils ont découvert le café via Nespresso. Et Nespresso, bon, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire écologiquement. C'est des capsules en aluminium. Aujourd'hui, même si c'est des gens quand même qui essaient de travailler des cafés légèrement plus qualitatifs, ce qu'ils faisaient avant, enfin là je parle du café Nescafé qui, alors pour le coup, est vraiment très 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 bas de gamme, ces gens-là ont découvert la notion de terroir, la notion à travers le prisme de Nestlé. Sans Nestlé, honnêtement, je ne sais pas si on serait là aujourd'hui, nous, à faire cette promotion-là. Par contre, clairement, ce n'est que le début du chemin, c'est même pas une marche, quoi. Donc, à nous de la prendre, cette marche, et d'expliquer. Vous avez découvert par ce biais-là, c'est pas mal ou c'est pas bien. On va par contre essayer de vous expliquer la réalité des choses et voir à partir de là si vous estimez que c'est une bonne démarche, quoi. Mais il faut que ça passe quand même. J'aimerais bien pouvoir parler à plein de monde, mais je pense quand même que ça doit passer quand même par, à un moment donné, une prise de conscience de l'industrie. Mais c'est un gros défi, puisque là, c'est un paradigme qui doit être remis à plat et complètement changé, quoi. Et je pense pareil pour les spiritueux.
Ouais, pour tout. Hein? Spiritueux, CHR, resto, enfin, je veux dire, dans tous les cas, dans notre secteur, et c'est un paradigme à... Ouais. C'est ça.
Aujourd'hui, vous êtes tous les deux dans l'action, vous essayez de faire changer les choses. Est-ce que vous êtes optimiste quant à ce fameux changement de paradigme ? Ou pas ?
Bon, vu ce que j'ai répondu avant, je ne sais pas si... j'ai une nature un peu pessimiste, donc rassurez-vous, c'est lié à ma personne. Mais
on peut être pessimiste et dans l'action quand même.
Exactement. Non, mais moi, je le prends comme une force, en fait. C'est-à-dire que ce pessimiste je vais parler à la première personne, mais me met dans l'action. C'est-à-dire
qu'en fait,
voilà, ça me galvanise, exactement. Donc, c'est quelque chose qui est pris comme un défi de se dire, en fait... moi j'ai clairement un aspect militant, je suis dans ce métier là par militantisme, ça peut paraître bizarre mais il y a une vraie notion en tout cas là dessus, je pense que c'est pareil pour Max pour l'avoir déjà rencontré et discuté autour de tout ce qu'il fait aussi en permaculture chez toi,
ça arrive.
Voilà, donc on a un vrai militantisme, ça c'est clair et net. Oui, j'ai envie d'être optimiste, j'ai deux filles donc j'espère leur offrir un joli monde, mais maintenant bon voilà. On est optimiste.
Il a eu été beau. Hein.
On entend de plus en plus parler d'écologie, de changement de consommation, de production, la fameuse éco-responsabilité. Mais est-ce que ce n'est pas un leurre d'entreprendre de manière éco-responsable ? Je m'explique. Aujourd'hui, on sait que ce sont les lobbies, les grosses industries qui dominent le marché. Et en fait, on voit de plus en plus de petites start-up ou de petites entreprises qui veulent mettre du cœur à l'ouvrage et mettre ajouter leur pierre à l'édifice. Mais est-ce que dans les choses telles qu'elles sont actuellement, est-ce que ça ne contribue pas à plus de pollution dans le sens où les deux existent au même moment et en fait ça fait juste plus de choses sur le marché. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un paradoxe à créer de nouvelles choses et peut-être à se créer aussi des faux besoins ? Alors je ne parle pas forcément du café ou des spiritueux, mais en général dans la consommation.
Donc le fait d'avoir une nouvelle offre, c'est ça ? Donc,
oui, c'est ça. En fait,
le fait d'avoir une nouvelle offre,
chose,
ça ajoute quelque chose.
Même si
donc,
elle est éco-responsable.
Après, c'est des offres de substitution. Donc voilà, après, c'est juste au consommateur de faire le choix. En tout cas, il fallait qu'il ait le choix et on propose le choix, on propose l'alternative.
Est-ce que ces choix ont un impact sur... Est-ce que parce qu'il y a quelque chose de disponible qui est bio, est-ce que ça veut dire qu'il y a un délaissement de la denrée industrielle, à votre avis ?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, encore une fois, désolé, je vais reprendre par le prisme du café. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous, torréfacteurs et torréfactrices qui ont une approche un petit peu plus éco-responsable, en fait, on est... Enfin, même si je vous avoue qu'on est encore petit, on apporte quelque chose de bénéfique à la filière. C'est-à-dire, tout simplement, en fait, des gens... peuvent parier sur ce métier d'avenir en production. Il faut le savoir, la production, vous prenez un pays comme la Colombie qui est un grand producteur, c'est le premier producteur d'Arabica après le Brésil, la moyenne d'âge des producteurs, c'est des gens qui ont plus de 50-60 ans. Les jeunes n'ont pas du tout envie de faire ce métier-là. Pourquoi ? Parce que c'est un métier qui n'est pas rémunérateur. C'est un métier qui est assujetti à un marché. Chaque année, le prix n'est pas le même. Il y a des fois, il y a des réchauffements, le réchauffement qui permet, je vous rappelle que l'Arabica, et notamment qui est donc l'espèce botanique la plus consommée dans le monde, est une espèce qui pousse en altitude. Donc, si vous voulez, si j'ai une altitude qui est trop basse, du coup, la profondeur de tasse ne sera pas intéressante. Donc, c'est-à-dire que ce sera un café qui sera moins cher. Et donc, avec le réchauffement climatique, vous êtes bien d'accord, on est un petit peu obligé de monter de plus en plus haut pour pouvoir avoir des cafés qui soient qualitatifs. Donc, réchauffement climatique, métier où le prix n'est pas tout à fait le même chaque année, mais en fait, les jeunes, ils n'ont pas envie de faire ça. Et je peux les comprendre. Donc aujourd'hui, nous, à notre petite échelle, on fait le pari de travailler sur un produit qui est traçable et qui est rémunérateur pour l'ensemble de la filière. Et aujourd'hui, on le sait, j'ai la chance d'avoir bossé aussi dans l'importation, donc ce qui fait que je connais assez bien la production. Il y a des jeunes de notre âge aujourd'hui qui, eux aussi, ont envie d'entreprendre dans le café, mais dans le café vertueux, qui soit tout simplement rémunérateur. Voilà, désolé de l'avoir fait par le prisme du café. C'est ma seule spécialité.
C'est explicite, mais dans tous les cas, ça reste David contre Goliath d'une certaine manière. Et nous, on est là aussi à terme pour influencer, justement. Il faut pas croire que les gros ne se remettent pas en question non plus. L'idée, c'est que les gros, à terme aussi, se remettent en question. Donc, si on les bouscule, ils se remettront forcément en question à un moment donné et eux-mêmes changeront à un moment donné quand ils vont voir qu'ils perdent des parts de marché. Forcément, ils finiront par se bouger à un moment donné.
Alors, dans ces cas-là, je vous annonce une information qui est hyper intéressante. Donc, Bon, ben voilà, on surveille tous le monde du café. Je ne sais pas si vous savez, mais sur le bassin d'Arcachon, il y a un énorme torréfacteur qui s'appelle Maxi Coffee. Et hier, Maxi Coffee a été racheté par Lavazza. Donc voilà. Donc hier, on a donc une vraie industrie, un industriel Lavazza, je pense que tout le monde connaît, qui est un industriel italien, un torréfacteur italien qui est énorme, a décidé d'acheter Maxi Coffee, qui est quand même pour moi un des fers de lance du café de spécialité. Donc pardon, excusez-moi, le café de spécialité, je vous en ai pas parlé, mais c'est comme ça qu'on nomme le domaine du café traçable, etc., qualitatif, comme on vient d'en parler. Donc ça s'appelle le café de spécialité. Maxi Coffee, je pense que c'est le plus gros en France, en tout cas. Je crois qu'on est sur la 30e plateforme web française, quoi. Donc c'est pas rien, quoi. Je veux dire, c'est assez énorme. Et ça a été racheté par Lavazza hier. Donc vous voyez, les industriels, comme vient très justement dire Max, bah, voilà, ils s'intéressent aussi au café de spécialité. Je vous rappelle qu'il y a, alors dans mon monde du café de spécialité, il y a une marque qui a plus de 30 ans qui s'appelle Blue Bottle, qui est un des premiers, donc c'est une marque états-unienne de café de spécialité. Elle a été rachetée par Nestlé il y a 10 ans. Donc comme il dit, les industriels à un moment donné, bon alors ils sont plus dans une vampirisation, j'ai l'impression pour l'instant. Maintenant, j'ose espérer que les gens de Maxi Coffee qui viennent d'être achetés vont garder un cahier des charges très important. Et c'est à surveiller, quoi. C'est là où c'est très important, puisque l'industrie a quand même évidemment ceux qui ont les pouvoirs financiers. Donc, ils ont racheté quand même une boîte française. Maintenant, voir comment va évoluer l'offre. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire avec le recul, c'est que Blue Bottle, aujourd'hui, garde une offre extrêmement qualitative alors qu'elle appartient à Nestlé. Donc, vous voyez quand même, on est quand même dans un paradoxe. Et l'industrie, elle aussi, elle évolue. Maintenant, est-ce qu'elle évolue assez vite, ça, malheureusement ?
Bah, en période de transition, on n'est que dans le paradoxe. Hein. Donc, il ne faut pas attaquer les paradoxes des gens, je pense, parce que malheureusement, on essaie tous de changer à notre échelle. On fait du mieux qu'on peut. Et l'idée, c'est déjà de faire le mieux possible. Donc voilà, mais il ne faut pas attaquer les paradoxes. Et l'idée, justement, c'est de faire en sorte d'influencer, d'améliorer et d'être vertueux le plus possible.
L'industrie évolue, la société évolue, vous allez évoluer aussi. On arrive bientôt à la fin de cette interview. Quelles sont vos envies de développement pour vos activités respectives pour l'avenir ?
Je vais recommencer. Clairement, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, clairement, j'ai vraiment aucune honte à espérer avoir une belle petite PME avec du volume qui permet tout simplement d'avoir un impact sur la production. Aujourd'hui, mon impact est quand même encore assez faible. Donc si je veux avoir un impact et essayer de changer la donne, et notamment dans la vertu des échanges entre la production et la torréfaction donc en Europe, clairement, j'ai quand même cette grande ambition quand même d'avoir une belle torréfaction qui fasse un certain volume qui a un impact. Maintenant, après, bah, c'est plein de petits trucs quotidiens à l'intérieur pour essayer d'améliorer tout l'aspect, évidemment, écologique dont je vous parlais tout à l'heure, de la récupération du marc de café. Enfin, on doit aujourd'hui, dans nos fondements même, avoir des attentes et un cahier des charges très important sur la façon dont on doit vivre notre entreprise. Autre chose, c'est important parce qu'on parle beaucoup d'écologie, mais il y a aussi l'humain. Et l'humain dans une entreprise. Aujourd'hui, moi, c'est quelque chose, c'est mon gros défi des 10 prochaines années. Alors, je suis un jeune entrepreneur, donc j'ai peut-être énormément de... j'ai été employé toute ma vie, hein, donc moi, ça fait finalement que un peu moins d'un an. Mais voilà, j'ai aussi envie d'essayer de créer une entreprise un peu différente dans la façon dont les gens travaillent à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose pour moi qui est super important. On a tous connu la société pyramidale, elle existe encore, elle est très claire. Aujourd'hui, j'ai vraiment des idées. Après, voilà, j'en sais rien puisque je suis pas du genre à me renseigner dans des écoles. Enfin voilà, je suis pas du tout quelqu'un qui va lire des choses autour du management.
T'es autodidacte en fait.
Oui, c'est vraiment autodidacte. Puis c'est vraiment. Mais par contre, je pense que l'écologie doit aussi aller avec vraiment la être heureux au travail, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est ? Moi, dans mon métier, on a une activité qui est quand même assez rébarbative. Et comme très clairement, peut-être aussi pour les spiritueux, il faut faire des paquets de café. Bon, faire des paquets de café, je veux dire, c'est un travail qui est un peu à la chaîne, quoi. Donc, bah voilà, comment réfléchir à ça ? Alors même, évidemment, s'il y a des machines, évidemment, qui peuvent faire ça. Mais en tout cas, essayer de trouver un moyen pour que les humains puissent aussi être heureux dans une entreprise et surtout qu'on arrête avec cette espèce de société pyramidale qui est quand même extrêmement ancrée encore, et particulièrement en France, je trouve, dans la façon dont les entreprises existent et vivent. Voilà.
Je te rejoins là-dessus. Il faut réduire un peu la pyramide. Pas besoin d'être en haut tout le temps avec les gars en bas. Il faut revoir un peu le schéma, je suis d'accord.
Et vos envies pour l'empire et le spiritueux pour l'avenir ?
Alors, J'ai un projet là en ce moment là qui est en cours. Donc on a racheté des terres nous avec mon associé à pas loin de Bordeaux dans l'Entre-deux-Mers, et on va faire de la permaculture. On a racheté 3 hectares. Et donc l'idée c'est de produire une partie de nos fruits et légumes. Alors on sera pas autosuffisant, surtout pour le restaurant, ça demande beaucoup de produits. Mais l'idée c'est déjà d'essayer de produire une partie de notre voilà des produits des fruits et légumes, de plantes aromatiques. L'idée c'est qu'à terme j'arrive à proposer un mojito avec la menthe du jardin de l'Empire. Tout ça en permaculture, et voilà, ça serait un vrai kiff. Donc ça c'est ce projet qui est en cours là, qui devrait voir le jour en 2023. Donc on travaille dessus, mais c'est pareil, c'est des gros investissements, il faut être accompagné parce que évidemment je peux pas être fermier comme ça du jour au lendemain. Donc l'idée là c'est ça la grosse idée pour l'instant. Et ce qui est intéressant c'est qu'on travaille avec BC Compost aussi qui sont des amis, et on récupère donc les déchets organiques du restaurant et donc du bar, et on les transforme en compost. Et ce compost là moi je vais le récupérer sur la ferme pour pouvoir cultiver après dedans. Donc c'est ça qui est cool. Donc là vraiment c'est un cercle,
un vrai cercle vertueux,
ouais. Vertueux, ouais.
Et si on est curieux et qu'on veut goûter le café, on peut le retrouver ou on peut l'acheter comment?
Alors, du coup, aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons 2 marques que nous exploitons. Donc, pour vous expliquer très rapidement, Café Pia est un café qui est vraiment tourné vers la 100% traçabilité avec l'incarnation de producteurs ou de productrices. On travaille souvent sur des monocépages, donc on est dans l'arabica, mais on va travailler des monovariétés. Donc, on est sur un café quand même qui est extrêmement qualitatif. Donc, ça, c'est à travers le cafépia.com, tout simplement, qui est le site internet où on peut acheter. Et on a évidemment un boutique coffee shop qui est situé 69 rue des Airs à Bordeaux Centre, donc juste en face de l'école Paul Bert, pardon. Et ensuite, donc, on vient de lancer donc thebatchculture.com, donc pour retrouver le site, où là, on est, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur des cafés qui sont, on va dire, plus abordables en termes de prix, mais qui restent vertueux. Donc, juste pour vous expliquer très rapidement, en fait, Batch Culture, ce sont des cafés qui peuvent être liés à des coopératives, mais en tout cas, ce sont des cafés qui sont achetés hors du marché boursier, c'est-à-dire ce qu'on achète des prix fixes. Et donc, tout simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on connaît les intermédiaires, et il y en a 4. Au maximum. Donc, c'est-à-dire dans le café, 4, c'est vraiment faible, puisque normalement, on parle de plus entre 7 et 10 personnes, parfois, entre le café et votre tasse, donc entre la plante. Voilà.
Et dernière question, l'Empire, c'est ouf. Et Sapio, comment on fait si on est intéressé?
Alors, l'Empire, c'est à Bordeaux Centre, c'est dans le quartier Saint-Pierre, donc le quartier historique de Bordeaux. On est au 14 rue de la Devise. Et Sapio, on a un site internet, donc Sapio Spirit, on peut acheter en ligne. Et sinon, ben maintenant, il est dans beaucoup d'établissements, je pense une centaine sur Bordeaux. Et donc, on peut les déguster dans à peu près tous les bars à cocktails de Bordeaux et certains restaurants. Donc, voilà.
Campus Bordeaux. 88.1.
Campus Bordeaux 88.1.